Les monologues automnivers de Sébastien Bête-Bédé. Première partie. Automnivers 2009-2010. 1. Armand.
L'homme a 30 ans. On dit encore jeune homme, je crois. Le jeune homme a 30 ans. Il vit à Paris. Il est célibataire. Ce qu'il fait dans la vie n'a pas d'importance. On donne trop d'importance à l'activité professionnelle des gens. C'est normal, ça représente l'essentiel de leur temps, de leur vie, c'est normal. Mais parfois, ça n'est pas intéressant. Dans le cas d'Armand, ça n'est pas intéressant. Alors, en quoi la vie d'un jeune homme de 30 ans qui se prénomme Armand est-elle intéressante ?
2. Amélie.
C'est une jolie fille. Enfin, je crois. Bien que les critères de beauté diffèrent en fonction des goûts de chacun. Elle est jeune encore. Mais déjà l'inquiétude de vieillir a dessiné sur son visage des petites rides. Elle tente pas de les dissimuler. Elle dit que jamais elle ne subira de chirurgie esthétique. Jamais. C'est curieux de penser ça à son âge. Quel âge ? 27 ans et demi. Et dans la vie, elle cherche. Elle a fini ses études d'histoire de l'art l'an dernier. Ce qu'elle voudrait, c'est vivre en écrivant sur l'art. En attendant, elle travaille dans une galerie. Au fait, elle s'appelle Amélie et elle déteste son prénom. Elle le trouve trop gentil. Il y a quelques semaines, elle l'a avoué à sa mère et ça a fait toute une histoire.
3. Il faut que quelque chose se passe.
Le samedi matin ou le dimanche matin, quand le samedi elle n'a pas le courage ou qu'il pleut, la fille court dans un parc à Paris. Au moment où il parle, la fille, il ne la connaît pas. C'est parce qu'il a de l'avance sur le récit qu'il peut affirmer cela. Ce qu'il veut dire, c'est que très bientôt, il va la connaître et que cette rencontre va être le début d'une histoire. C'est au parc qu'il va la connaître parce que lui aussi, il court dans ce parc. Enfin, j'ai décidé le jour de mes 30 ans de courir deux fois par semaine dans ce parc à côté de chez moi. Le jour de mes 30 ans a été le jour de la révélation. Armand, bah c'est moi. Pourquoi j'ai pas dit avant ? Pourquoi tout ce mystère ? Bah parce qu'il est difficile de parler de soi, parce que je suis timide d'une certaine façon, mais je crois que je change. Je crois que l'on peut encore changer à 30 ans. Je crois que petit à petit, je prends confiance en moi. Le jour de mes 30 ans a été le jour de la révélation. Il faut que j'arrête de fumer, que je commence à faire du sport. Il faudrait aussi que je trouve un vrai métier, parce que comme activité dans la vie, disons que j'enchaîne des petits boulots plus ou moins intéressants, enfin, plutôt moins que plus, pour être tout à fait exact, et je démissionne. Bon, en ce moment, je suis dans la période d'émission. J'ai 30 ans, et il faut que quelque chose se passe.
4. La première rencontre fut un choc.
C'est difficile de parler de soi. Il y a des personnes qui savent faire ça parfaitement, qui sont intarissables sur le sujet. Ils sont nombreux. J'en ai rencontré de beaux spécimens. C'est pas mon cas. Malgré tout, je crois que petit à petit, je prends confiance en moi. Puisqu'il faut dire la vérité, c'est moi, la fille qui déteste son prénom. Je suis Amélie. La première rencontre fut un choc, au sens propre. Je courais, il m'est rentré dedans.
On aurait aussi bien pu dire que tu m'es rentré dedans.
Ce matin-là, il y avait du soleil. J'avais les yeux baissés. Je cours les yeux baissés parfois. Et lui, qui court jamais les yeux baissés, avait le soleil en pleine face. Je prenais un virage, les yeux baissés donc. Il arrivait dans le sens contraire, le soleil en pleine face. Nous nous sommes rentrés dedans. Ce sont des choses qui arrivent. Le choc n'était pas vraiment violent, mais il était désolé.
Bah, je suis désolé.
C'était touchant, comme il était désolé.
Vous allez bien ?
Ouais, ça va. Et vous ?
Bah, ça va. Merci.
Bon. Tant mieux.
Ouais, tant mieux, ouais.
C'était nul comme discussion.
Ouais, vraiment nul et sans intérêt.
Mais c'est le début de notre histoire.
On s'est quitté comme ça.
Chacun a repris sa course.
On s'est croisés le tour suivant.
On s'est souri, un peu gêné.
Et chacun est reparti chez soi, prendre une douche.
5. 2 samedis et 2 dimanches.
Le samedi suivant, je suis retourné courir au parc. J'avais acheté un survêtement noir avec des rayures blanches de chez GoSport. Bon, c'était la première fois de ma vie que j'achetais une tenue de sport aussi onéreuse. Un vrai investissement. suis plutôt élégant, hein. À la fois gothique, on se refait pas, et sportswear, on peut encore changer, même après 30 ans. Bien évidemment, ma motivation à venir ce samedi, au-delà de la résolution de mes 30 ans, devait beaucoup à l'espoir de recroiser Amélie. Donc, bon, je cours 45 minutes, mais point d'Amélie samedi. Retour chez moi, sous la douche, je pense à mon beau survêtement à rayures blanches qui tombe dans la machine à laver et qui ne sera jamais sec demain matin. Le lendemain, j'opte pour un Bermuda, un t-shirt gris clair et un sweat à capuche qui me donne l'air d'un ado. Pas si mal. Plus hip-hop que new wave, mais pourquoi pas. Je cours 1 heure. Je cours 2 heures. Pas d'Amélie. Je marche 1 autre heure. Toujours pas d'Amélie. Le dimanche midi, le week-end suivant, je me résous à l'évidence. La jeune femme que j'ai rencontrée il y a 2 semaines a arrêté de courir le week-end. Je ne la reverrai donc jamais plus. Fin de l'histoire.
6. Un vieux sac.
En réalité, j'ai déménagé. Provisoirement. J'ai quitté le 20e arrondissement pour revenir vivre quelque temps avec ma meilleure amie et ancienne colocataire, Sarah, qui vient de se faire larguer comme un vieux sac par Jean-Pierre. JP, comme il se fait appeler, porte des mocassins une grande partie de l'année. En été, le soir, il met un pull en cachemire sur les épaules et le noue autour du cou. Sarah, qui a une tendance à la dépression largement au-dessus de la moyenne, m'a appelée en pleurs. Elle voulait mourir, là, tout de suite. Se pendre avec le pull en cachemire que JP avait oublié chez elle, comme par provocation. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas revenue courir dans le parc où j'ai rencontré Armand.
Sept. Benjamin.
Je m'appelle Benjamin. Je suis l'ami d'Armand. Un soir où nous étions tous les deux ivres, il m'a même gratifié du titre de meilleur ami. Armand pèse chacun de ses mots, même sous alcool. Et je sais qu'en disant cela, il avait fait de moi son protecteur, une espèce d'ange gardien. Cette responsabilité me flattait et m'effrayait tout autant. Avec Armand, nous nous connaissons depuis 10 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'école des Beaux-Arts à Bordeaux. Armand faisait de la peinture plus ou moins figurative. Moi, des vidéos intimistes que je montrais en monobande, comme on disait à l'époque, ou en installation. Nous avons immédiatement sympathisé. J'aimais ses peintures sincèrement. Lui se forçait un peu à trouver mes vidéos intéressantes, mais ça n'avait aucune importance. Nous avons passé 5 années aux Beaux-Arts ensemble, ensemble contre tout le monde. Enfin, presque tout le monde. On adorait détester certains étudiants, ceux qui se prenaient pour Joseph Beuys ou Gina Payne, qui mangeaient de la viande avariée ou déclamaient du Nietzsche nu sous des peaux de bête. On partageait notre atelier avec Azuki, une étudiante japonaise très drôle, qui tenait très bien l'alcool et faisait des dessins étranges, où des jeunes filles copulaient avec des animaux à cornes. Nous sommes sortis des Beaux-Arts au bout de 5 ans, diplômés, un peu plus vieux et surtout un peu plus dépressifs. Armand est parti vivre à Paris, il a suivi Céline, une fille très jolie, qu'il avait rencontrée dans une fête et qui faisait lettres à Bordeaux. Elle avait trouvé un travail à la fin de ses études, pistonnée par un oncle, dans une maison d'édition parisienne. Moi, je suis resté 1 an de plus dans cette ville à entretenir ma dépression post-diplôme en écoutant en boucle la chanson de Dominique A, celle qui dit « Je suis une ville dont beaucoup sont partis, enfin pas tous encore, mais ça se rétrécit. Il reste celui-là enfin, qui ne se voit pas ailleurs. »
Mais ça se rétrécit, il reste celui-là qui ne se voit pas ailleurs.
Je commençais à devenir obèse. Je fumais beaucoup de cannabis et buvais tous les jours en parlant avec les anciens étudiants de mes projets. Je commençais à me détester. Et puis, ma grand-mère parisienne est morte. Son appartement s'est libéré. Je suis monté à mon tour à la capitale. Je me suis inscrit à la fac pour étudier le cinéma. Après 5 ans aux Beaux-Arts de Bordeaux, j'avais envie de commencer de vraies études.
8. Eugène Green et Judd Apatow.
Depuis que nous sommes tous les deux parisiens avec Benjamin, nous aimons, quand notre emploi du temps nous le permet, aller au cinéma l'après-midi avec, on va dire, une grosse prédilection pour la séance de 16h. Le cinéma fait partie de ma vie, comme de la sienne, et la fréquentation des salles obscures en compagnie de l'autre est devenue pour tous les deux une habitude, presque un rituel. Le premier film que nous avons vu ensemble à Paris, bon, je m'en souviens très très bien.
Où est l'ogre ?
C'était Le Monde Vivant de Jeanine Green.
Il est allé boire une bière. Nous sommes seuls.
C'est drôle qu'on puisse être seul, et pourtant être deux.
C'est la grammaire qui le veut.
Alors je la remercie, la grammaire, de me laisser seul avec vous.
Le Monde Vivant est un conte médiéval avec des chevaliers, des sorcières lacaniennes, un ogre et un lion interprété par un labrador. Dans les champs contre-champs du film, les visages des comédiens sont filmés le plus souvent de façon frontale, sans amorce, nous plaçant, nous, spectateurs, au centre de l'échange. Eugène Green dit vouloir capter, par l'art cinématographique, la présence des êtres, et la réussite de son projet est bouleversante. Lorsque nous sommes sortis de cette séance avec Benjamin, nous avions le sentiment d'avoir assisté à un miracle. Je me souviens que nous marchions sur le boulevard Saint-Germain, conscients que quelque chose dans notre perception du monde avait changé et que cette expérience partagée dans cette salle du Quartier Latin marquait une nouvelle étape dans l'histoire de notre amitié. Aujourd'hui, Benjamin m'a appelé pour me proposer de l'accompagner voir le dernier film de Judd Apatow, Funny People, que nous avions raté lors de sa sortie il y a un an. Le cinéma en soirée ne faisait pas partie de nos habitudes, mais Benjamin avait une envie pressante de découvrir le film ce soir. Le film passait à 22h20 au MK de Beaubourg, j'avais donc décidé de m'y rendre à vélo. Depuis ma reconversion en sportif responsable, j'avais repris le vélo et j'affectionnais particulièrement les déplacements de nuit à casque sur les oreilles, branché à mon iPod. Bon, je sais que c'est pas très prudent, mais ces moments-là me donnent le sentiment galvanisant d'être un personnage de fiction, un héros sur sa monture dans la ville endormie, le temps d'une séquence rythmée par une BO de mon choix. Le film durait 2h30 et nous sommes sortis de la salle vers 1h du matin. Funny People raconte l'histoire de George Simmons, acteur de comédie populaire à succès à Hollywood. Et donc il apprend au début du film qu'il est atteint d'une leucémie et que le traitement qu'on lui propose lui laisse 8% de chances de guérison. Il décide donc de retourner sur scène, le lieu qu'il avait révélé. Après la séance, nous sommes allés boire une bière dans une brasserie à côté du cinéma. Alors nous étions en plein exercice d'admiration, le plus beau film d'Apatow, nous questionnant sur le pourquoi d'une telle émotion que nous avions tous les deux si fortement ressentie quand le garçon de café, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Michel Delpech, et c'en est vraiment troublant, hein, s'est approché de nous pour nous annoncer qu'il fermait. Il nous a dit cela avec une voix douce et un sourire tendre. Il était 2h du matin. Benjamin n'avait pas le choix. Plus de métro, il rentrerait à pied. Quant à moi, je rejoignais mon vélo attaché au tuyau métallique du centre Pompidou.
9. Vélo Paris by Night.
Eh ben, me voilà sur mon vélo, rue Rambuteau. En hommage au garçon de café, j'ai retrouvé une compilation de Michel Delpech dans les tréfonds de mon iPod. Passer les soirs sauvages. Tandis que les oies sauvages s'en vont vers la Méditerranée, moi, ben, je traverse le marais par la rue des Francs-Bourgeois, déserte à 7h avancée, et bientôt, ben, je débouche sur la rue de Turenne. Après quelques mètres, je croise un type en train de courir comme s'il était poursuivi par le diable ou par la police. Mais personne ne semble être à ses trousses, ni diable, ni flic. Je continue. Je m'apprête à tourner rue des Comines, là, pour rejoindre la rue Oberkampf. Quand, soudain, au milieu du dernier couplet, quand Michel Delpech dit son désir de rejoindre ses oiseaux, là-haut dans les nuages, je crois entendre un cri. Alors je m'arrête, jette à mon iPod, je tends l'oreille, et là, boum, à nouveau un cri. Et c'est celui d'une femme. Et même, je dirais, c'est même celui d'une jeune femme. Ça vient de la cour qui est ouverte, là, d'un immeuble. Je pense à George Simons, le héros de Je t'appâteau, à ses moments de bravoure dans le film. Je pose mon vélo contre le mur et m'avance dans la cour. J'entre dans l'obscurité.
10. Le tiramisu du chef.
Ce soir, Guillaume m'a invité à dîner. Guillaume, c'est le garçon avec qui je sors, plus ou moins, depuis 6 mois. Je l'ai rencontré dans un bar où il mixait. Il est DJ. Je me suis laissée séduire. Guillaume est ce qu'on appelle un beau garçon. J'étais une fille un peu désœuvrée. Guillaume travaille la nuit, presque toutes les nuits. Mais ce soir, il est de repos et il a décidé de m'inviter dans un restaurant tenu par un ami à lui, près de Bastille. En arrivant, je découvre qu'il s'agit plus exactement d'un bar qui fait restaurant, le genre d'endroit où la nourriture est décongelée et la musique très forte, idéal pour un tête-à-tête intime. L'ami Guillaume, un grand type au crâne rasé et une bonne dizaine de piercings dans les narines, nous accueille derrière son bar. Il salue DJ Guy, c'est le pseudo de Guillaume, et me déshabille de la tête aux pieds avant de me souhaiter la bienvenue. Dès la première impression, je déteste ce type. On m'a souvent dit que je jugeais les gens trop vite, je pense pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui méritent pas plus qu'une première impression. Kevin fait partie de cette catégorie. Kevin, c'est donc son prénom et ça lui va vraiment comme un gant, à croire que ce prénom avait été inventé pour lui, nous indique une table près de la fenêtre. Il y a du monde. Ça ressemble au nouvel endroit branché des trentenaires parisiens, un peu fauchés. Une jeune femme, aimable comme un porte-manteau et qui se veut hyper sexy avec sa mini-jupe et ses barésies trouées au niveau de ses grosses cuisses, nous apporte l'ardoise qu'elle installe sur une chaise devant nous, comme on fait dans les restaurants pour trentenaires, un peu fauchés. Pendant que nous déchiffrons la carte, et au lieu de nous laisser le temps de la réflexion, elle reste là à attendre, son regard branché sur l'option vide, abyssale. Hamburger maison, andouillette frite, tartare de bœuf, pavé de saumon, sauce à l'oseille. Génial. Guillaume choisit le hamburger maison, j'aurais pu parier. J'opte pour le pavé saumon, sans sauce.
Un peu de vin, nous avons un très bon madiran.
Va pour le très bon madiran. J'avais soudainement très envie de boire. Le pavé de saumon et le vin se révélèrent en adéquation parfaite avec le lieu. La conversation aussi. J'avais pas vu Guillaume depuis plus d'une semaine et ce qu'il me raconta fut d'un ennui mortel. Guillaume, je m'en étais pas aperçue au début de notre relation, fait partie de ces personnes qui ne posent jamais aucune question et qui, de plus, sont capables à 2 jours d'intervalle de ressortir la même anecdote en pensant qu'elle est inédite. Il en était à parler pour la 3e fois en 1 mois du mal de dos qu'il avait terrassé après une soirée de mix quand la serveuse qui se croit hyper sexy vint débarrasser la table. Pour la première fois de la soirée, j'étais contente de l'avoir.
Vous prendrez un dessert ? Je vous apporte l'ardoise ?
Pour moi, ça ira, merci. En prononçant cette phrase, je priais pour que Guillaume comprenne que j'avais envie de m'enfuir de ce lieu au plus vite et demande l'addition. Mais au lieu de ça, il osa commander le putain de tiramisu du chef. Après quoi, Kevin nous rejoignit pour boire une bière. Il offrait sa tournée, le gentleman. Ce fut la soirée la plus longue de mon existence. Nous quittâmes le lieu un peu avant 2 heures.
11. Ne plus penser à rien jusqu'à demain.
Je marche à côté de Guillaume. J'ai envie de dormir avec toi, me dit-il. Moi, j'ai envie d'être seule dans mon appartement. Je suis revenue vivre chez moi il y a 2 jours. Sarah a renoncé à mourir pour l'instant. D'oublier cette soirée, de ne plus penser à rien jusqu'à demain. Je ne lui réponds pas.
Bon, laisse-moi te raccompagner au moins, c'est sur mon chemin.
Si tu veux.
C'était sympa ce soir, non ? Tu fais la gueule ?
Je fais pas la gueule ?
Si, je vois bien que tu fais la gueule.
Tu m'énerves. Nous continuons à avancer dans le silence. L'ambiance est lourde. C'est alors que 2 types portant des capuches sur la tête surgissent de la cour d'un immeuble. Le plus petit sort un couteau de sa poche, il le pointe vers Guillaume.
Ton fric ?
Guillaume tend aussitôt son portefeuille en tremblant. Le type fouille, trouve un billet de 20 et quelques pièces.
C'est tout ce que t'as ?
C'est tout ce qu'il avait.
Et toi ?
Le type, sans me laisser le temps de l'ouvrir, m'arrache mon sac. Il renverse mes affaires au sol, récupère mon portefeuille, il trouve un pauvre billet de 10 euros. L'autre type, le plus grand, se tourne alors vers moi.
Va falloir payer autrement. Toi, tu te casses. T'as compris, tu te casses.
Et Guillaume, sans se faire prier plus longtemps, s'exécute. Je reste paralysée, les yeux sur sa silhouette qui s'éloigne. Le petit me prend par le bras, je pousse un cri. Le grand passe sa main sur ma bouche. Tous les deux m'entraînent dans la cour de l'immeuble. J'ai peur.
12. La deuxième rencontre fut un coup de couteau près du cœur.
C'est une cour immense desservant de grands immeubles modernes. Il y fait sombre. Qu'est-ce que je fous là ? Je distingue les silhouettes de trois individus qui s'avancent en direction du bâtiment d'en face. J'accélère le pas. Parmi les trois, il y a deux hommes, capuche sur la tête, tenue de sport noire, et une jeune femme. La jeune femme tente de se défaire de l'emprise des deux ninjas. Ils approchent de l'immeuble. Je les interpelle. Une onomatopée bizarre sort de ma bouche. Oh, plusieurs syllabes quand même. Bon, tout en voyelle. C'est rond et pas vraiment viril. 12 secondes après, je suis face à eux. Sans trop d'idées, je dois l'avouer quant à la suite à donner à ce face-à-face.
Je relève la tête. Je reconnais tout de suite le type qui m'est rentré dedans, quelques semaines auparavant au parc.
C'est elle. C'est la fille du parc. Ah bah, moment de suspension. Bah, j'en oublie les ninjas. Le temps s'arrête. Bon, dommage, parce que les moments de suspension durent jamais assez longtemps. Après, bon, bah, tout allait très vite. J'ai dû dire, bah, lâchez-la! Ou un truc dans le genre. Ça n'a pas dû vraiment plaire au petit type qui m'a planté son couteau dans le ventre. À ce moment-là, le grand a paniqué. Il a crié sur le petit et ils se sont enfuis pendant que je perdais mon sang dans les bras d'Amélie.
13. Dans le camion du SAMU.
Le SAMU arrive quelques minutes après, nous montons, c'est une première, hein. On roule très vite, les pimpons pimponnent, je suis allongé sur une civière, à ma droite, Amélie, à ma gauche, un moustachu qui n'arrête pas de me répéter, « Vous m'entendez, monsieur? Parlez-moi !» Bon, bah moi, j'ai pas du tout envie de parler, hein. Je suis bien. Amélie est très très belle en contre-plongée. Et je suis en train de me dire que je vais finir ma vie comme ça, à 30 ans, dans un camion de SAMU, et que la dernière image sera celle de cette jolie fille au-dessus de mon corps. J'entends plus les pimpons. Je sens plus mon corps. Le visage d'Amélie disparaît. J'ai pas peur. Je souffre pas. Et je vois pas ma vie défiler.
14. Blanc. Sortie du corps numéro 1.
Il a échappé belle. C'est ce que chuchote l'infirmière à sa jeune collègue dans la chambre de l'hôpital où je me réveille, durant quelques secondes, perfusée et anesthésiée de partout. De ma bouche pâteuse, je tente timidement une question. Est-ce que je suis vivant ? Mais personne ne m'entend, même pas moi. Puis mes paupières se referment, sans que mon cerveau n'ait rien commandé, je replonge dans un sommeil qui ressemble là vraiment à l'idée que je me fais de la mort. De l'étendue blanche, où je viens subitement d'atterrir, je tente quand même une nouvelle fois de les interroger. « Excusez-moi, vous êtes certaine que je l'ai échappé belle ? Parce que là, vraiment, je vous assure que là, ça vraiment, ça ressemble. » Ça sert à rien. Ni l'une ni l'autre ne réagit. Bientôt elles disparaissent de mon champ de vision dans un lent, lent fondu au blanc. Soudain j'ai froid. Très froid. Putain, mais c'est moi le type là. Je me vois, je suis debout, raide comme un piqué. C'est mauvais signe, hein. Oh là là, la tête que j'ai, où je suis, c'est quoi tout ce blanc? Ça ressemble à rien, c'est le vide absolu. Du blanc en face, du blanc derrière, du blanc en haut, du blanc en bas, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Une main se pose sur mon épaule, je sursaute, me retourne et découvre là, face à moi, mon père, une cigarette aux lèvres. Mon père est mort quand j'avais 20 ans d'un cancer des poumons. Hein.
Mais qu'est-ce que tu fous là?
Me dit-il de sa voix de fumeur.
Bon, j'en sais rien, enfin, on m'a poignardé, enfin, a priori, je suis pas mort, mais j'ai comme un doute.
Non, t'inquiète pas, ça doit être la morphine. À la fin de mon cancer, j'ai eu des drôles de visions, moi aussi.
Ah bon?
Fais-moi confiance, c'est pas ça, la mort. Je sais de quoi je parle.
Ah bah, si tu le dis.
Oh, regarde.
Quoi?
Ton bras.
Quoi, mon bras?
Bah, tu commences à disparaître.
Putain, il est vrai, là.
À mon avis, tu vas te réveiller dans quelques secondes dans ta chambre d'hôpital.
Bah, attends, on n'a même pas eu le temps de parler, là, papa.
Au revoir, Armand.
Non, mais on n'a jamais eu le temps de parler, papa, là. Papa! Papa! Mon cri s'évanouit comme un écho. Et soudain, j'entends une voix de femme. C'est moi, Armand, c'est Amélie. J'étais revenu dans la chambre et Amélie était là. Sa main posée sur la mienne.
15. Amélie et Armand.
Dès le lendemain de cette soirée où Armand faillit mourir, j'envoyais un mail à Guillaume pour mettre un terme à notre relation. J'avais envie d'être définitive et minimale. Je lui écrivais que toute ma vie, je garderais l'image de sa silhouette fuyant dans la nuit, rue de Turenne. Sans surprise, il n'y eut aucune réponse. Armand m'avait sauvé du pire. Entre nous progressait le sentiment que, dorénavant, la vie de l'un serait liée à celle de l'autre, pour un temps ou pour longtemps.
J'étais là, allongé dans un lit vivant. Maintenant, j'en étais certain. Et une jeune femme, au charme de laquelle j'avais succombé et qui me considérait comme un héros, venait me tenir compagnie. Il n'y avait pas entre nous le moindre silence gêné. Les mots venaient simplement, on riait. On apprenait à se connaître.
La complainte de DJ Guy.
Ce soir, comme 5 soirs sur 7, je suis DJ Guy. Je suis payé pour faire danser les gens, pour qu'ils soient heureux, qu'ils s'oublient dans la danse le temps d'une soirée. Normalement, quand je suis derrière mes platines, ma casquette vissée sur la tête, le casque par-dessus, je pense à rien d'autre qu'à mon mix. Et pour que mon mix soit réussi, il faut que je sois concentré, réceptif. Il faut que le son envahisse mon corps, qu'il entre dans mon cerveau, puis que mon cerveau commande mes mains, qu'elle puisse négocier les enchaînements, les ruptures qui font de moi DJ Guy. Mais ce soir, dans mon cerveau, le mail d'Amélie repasse en boucle. Lorsque je l'ai reçu, je suis resté immobile devant l'écran de mon Mac pendant 10 minutes, incapable de réagir. Au bout de 10 minutes, j'ai cliqué sur répondre. J'ai attendu l'inspiration, mais elle est jamais venue. Que dire de toute façon? Je suis un lâche. Je t'ai laissé parce que j'ai eu peur. Est-ce que je suis capable d'écrire ça? Est-ce que je suis capable de dire que j'ai eu peur? Et si je le disais, qu'est-ce que cela changerait? J'ai appelé les flics dès que je suis arrivé au bout de la rue. Je les ai pas attendus. J'aurais dû attendre. J'aurais dû rester, me battre, prendre le risque que cette Kaira me plante un couteau dans le ventre. Non. De toute façon, notre relation avec Amélie commençait à sentir roussille. C'était la fin. Elle faisait tout le temps la gueule, elle me parlait mal. J'ai bien fait de fuir. J'ai bien fait. Et ce qui s'est passé une fois que je suis parti, est-ce que ces Kaira l'ont violée? Putain. C'est ce qui s'est passé. Non, non. Elle a dû réussir à s'enfuir. Elle a crié, les flics sont arrivés aussitôt, ils l'ont tiré d'affaire. Oui, c'est certainement ce qui s'est passé, il faut plus que je m'inquiète. Voilà ce que je vais faire. Je vais oublier cette histoire, je vais oublier Amélie. Ça y est, je suis en train de l'oublier. Pourvu qu'elle raconte rien à personne. Si elle parle, je n'irai, je laisserai entendre qu'elle a inventé tout ça pour se venger, parce que je l'ai quitté, c'est très bien. Ça va marcher. Je me sens mieux. Les gens dansent, pensent à rien. Grâce à mon mix, ils oublient leurs problèmes. Personne ne s'est rendu compte que mon cerveau n'était pas totalement disponible ce soir. C'est que je suis un professionnel.
17. Des Chiliens à Koh Lanta.
Bon, voilà 3 jours, on m'a transféré dans une chambre au 12e étage de l'hôpital Bichat, avec vue sur le périphérique. Dans cette chambre, il y a une télé. Et je ne l'avais pas demandé, hein, elle était là quand je suis arrivé. Benjamin vient de partir, et comme tous les soirs depuis 3 jours, lorsque je me retrouve seul, et que l'observation du flot continu des voitures commence à me lasser, je ne résiste pas, je l'allume. Bon, j'ai pas la télé chez moi. Lorsque j'ai eu mon premier appartement, j'ai renoncé à cette fenêtre ouverte sur le monde, comme on sépare d'un objet que l'on sait attirant
et dangereux. Le résultat, dès que je me retrouve devant elle, je suis happé, hypnotisé. Un soir, par exemple, j'étais en week-end chez ma mère, après un dîner plus que copieux. Nous nous sommes assis dans le salon, repu et là, et j'ai découvert Koh-Lanta. Alors Koh-Lanta, ça, c'est une émission où des candidats parachutés sur une petite île participent à toutes sortes d'épreuves en petits maillots de bain et sur une petite plage. Par exemple, pour marquer des points, il leur arrive de manger des scorpions séchés. Mais l'essentiel de leur temps, en fait, ils le consacrent à dire des saloperies sur leurs compagnons, à manigancer des complots pour éliminer le plus faible, par exemple. Le soir, après les épreuves de la plage, ils se retrouvent devant un feu avec le présentateur de l'émission. Ça s'appelle le conseil. C'est là qu'ils s'éliminent les uns les autres en dénonçant les points faibles de leurs coéquipiers et concurrents. Alors ils disent par exemple, il a pas été assez rapide, il a pas mangé, il a mangé que 8 scorpions en 4 minutes. Ça c'est pas possible. Ça on peut pas. Ensuite, chacun écrit le prénom de celui qu'il veut éliminer sur le parchemin qu'il retourne face à la caméra, mais dos aux autres, c'est plus classe. Puis le garçon ou la fille éliminée prend son sac et part dans la nuit en ayant pris soin de souhaiter bonne chance à ceux qui restent et qui se sont débarrassés de lui ou d'elle. Et le lendemain, ça recommence jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un.
À 622 mètres sous terre, le monde entier voit en direct le deuxième mineur pénétrer dans les trois
cases. Ce soir, en allumant la télé face au périphérique, je tombe sur le JT de France 2. Il s'agit d'un reportage sur le sauvetage de 33 mineurs chiliens restés bloqués depuis plus de 2 mois à 622 mètres de profondeur. On les voit sortir les uns après les autres à bord de leur nacelle métallique de 53 cm de diamètre, baptisée Providence. Après ces images, Mario Sepúlveda, le premier mineur à s'exprimer devant les médias, apparaît à l'écran. J'étais avec Dieu et avec le diable. Les deux ont essayé de m'avoir, mais Dieu a gagné. J'ai pris la main de Dieu. C'est lui qui m'a sorti de là. C'est Dieu, dit-il. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Et dans mon rêve, les mineurs chiliens participaient à Koh-Lanta. Mario Sepúlveda, en maillot de bain, torse nu avec ses lunettes noires, se plaignait face caméra du manque d'engagement physique de ses compagnons d'infortune.
18. Vlan.
C'est drôle. C'est drôle que ça arrive comme ça, en sortant de l'hôpital, 2 semaines après l'accident d'Armand, alors qu'il vient de me raconter pour la première fois sa rencontre avec son père, dans le blanc, le jour où il se croyait mort. Je ne vois jamais de médecin. Je ne suis jamais malade, jamais de grippe, jamais le moindre pépin. Une force de la nature, comme dit ma mère. Et puis Vlan. Ce soir, dans une rue près de l'hôpital, tandis que je me dirige vers le métro en pensant à l'expérience d'Armand, avec, je dois l'avouer, une certaine forme de jalousie. Je suis pris d'un mal de tête effroyable. Comme si mon crâne allait exploser. Je perds l'équilibre, je tombe. La moitié du corps dans une haie de laurier, celle qui borde une maison de retraite. L'autre sur le macadam. Je ne peux plus bouger. Je ne sens plus mon corps. La douleur a disparu. Mon crâne a dû exploser. Je suis étalé, la tête dans les lauriers, les pieds dans la rue. Je voudrais crier, mais je ne peux pas.
19. Je suis dans la haie. Sortie du corps numéro 2.
Je suis dans la haie. Le visage écrasé contre la terre humide près des racines de laurier. Un nouveau monde. Mon paysage blanc à moi. Rien ne se passe, pendant longtemps. Je commence à me sentir seul, je m'ennuie. J'en viens à espérer une visite. Un fantôme. Ma grand-mère. C'est au moment où je commence à désespérer qu'un vieux chat fatigué fait son apparition. Il pose ses yeux brillants de nyctalope sur mes yeux sombres et éteints. Je sens, sans pouvoir l'affirmer, qu'il éprouve une certaine sympathie à mon égard. Le rythme avec lequel il ronronne, le temps qu'il passe près de moi à me regarder avec un air compatissant me touche. Pourtant, au bout d'un instant, il me quitte. Me revoilà alors plongé dans ma solitude d'être humain.
20. Je sors de la haie.
J'ai peut-être dormi. Le jour commence à se lever quand je sens que quelque chose heurte l'autre partie de mon corps, celle que j'avais presque oubliée et qui repose sur le macadam. Un gamin, une planche de skate à la main, des écouteurs dans les oreilles, pénètre dans la haie. Il arrache les écouteurs, les laisse pendre le long de son gilet à capuche. Les basses d'un morceau hip-hop font vibrer le sol. Il m'interpelle.
Hey, monsieur.
Je ne peux pas répondre. Il jure.
Putain, monsieur.
Il devient très nerveux.
Putain, c'est relou.
Il trouve la situation relou. J'ai envie de le secouer. Qu'il aille chercher quelqu'un. Allez, vas-y, va chercher de l'aide. J'ai peur qu'il s'en aille, qu'il me laisse seul. Mais il sort un portable de son pantalon taille basse, appelle les secours. Merci, petit gars. Adieu, monde de la haie. Puis, le SAMU arrive. Civière. Ça a l'air sérieux. Monsieur, monsieur, vous m'entendez? Transport. Retour à la case départ. L'hôpital, juste à côté. Ascenseur, premier sous-sol. Scanner en urgence. Diagnostic, AVC. Accident vasculaire cérébral. Les soins intensifs, la tête en bas, les jambes en l'air. Quelle soirée.
21. A. V. C.
La gravité des séquelles dépend de la région du cerveau atteinte et des fonctions qu'elle contrôle. Plus la région privée d'oxygène est grande, plus les séquelles risquent d'être importantes. À la suite d'un AVC, certaines personnes auront de la difficulté à parler ou à écrire, aphasie et des problèmes de mémoire. Elles pourront aussi être atteintes d'une paralysie plus ou moins importante du corps. C'est ce que Amélie avait trouvé en tapant AVC sur son iPhone. Je devais sortir de l'hôpital demain et Benjamin, il faisait son entrée avec ce truc à trois lettres qui avait abîmé son cerveau.
22. Le couloir.
Depuis ce matin, les visites sont autorisées. 10 minutes, pas plus. Amélie m'accompagne. À la sortie de l'ascenseur, nous suivons les flèches indiquant attaque cérébrale. Après un long couloir, je reconnais la silhouette du père de Benjamin. Il est au téléphone. J'ai rencontré le père de Benjamin une seule fois. C'était à l'époque des Beaux-Arts, lors du déménagement de son fils. Il conduisait le camion. Les 10 ans qui nous séparent de cette rencontre ont évidemment changé son beau visage de paysan. Ses cheveux ont blanchi. Des rides parsèment son front. Ses joues se sont creusées. Il raccroche et nous découvre face à lui. Son visage prend un air interrogatif. Il ne me reconnaît pas tout de suite. Le temps avait aussi agi sur moi. Je lui demande, comment va-t-il ?
La moitié de son corps est paralysée, mais il est conscient. Sa mère est descendue à la cafétéria. Il est tout seul. Allez-y, ça lui fera plaisir de vous voir.
23. Le sourire de Benjamin.
Benjamin est allongé, le lit incliné, lui maintenant la tête en bas. C'est ce qu'on fait pour prévenir d'un risque de récidive. C'est impressionnant de le découvrir ainsi. Il faut s'approcher pour voir son visage. Je m'approche. Amélie reste en retrait. J'ai peur de croiser son regard, de fondre en larmes. Mais cette angoisse qui monte en moi disparaît dès lors que je me retrouve au-dessus de lui. La paralysie de la moitié de son corps donne à son visage une drôle d'expression, étrangement joyeuse. Je crois qu'il me sourit. C'est un sourire qui semble dire... Ne t'inquiète pas. Je suis à cet instant convaincu que Benjamin s'en sortira, qu'il tente une expérience et qu'il en reviendra grandi. Je serre la main de mon ami et lui rends son sourire.
24. Sarkozy n'existe pas.
Aujourd'hui, 8e jour depuis mon AVC et mon séjour dans la haie. Le docteur me félicite pour mes progrès. On a redressé mon lit, ma tête a rejoint l'horizontale du reste de mon corps. Je parviens à lever mon bras gauche, à bouger ma jambe. Bien que chaque mot me demande un effort, je recommence à parler. Mais les séquelles les plus mystérieuses concernent mon esprit et ma mémoire. Le docteur, pour stimuler mon cerveau convalescent et tester mes progrès, entre dans ma chambre avec des questions qui très souvent me laissent démuni. Aujourd'hui, par exemple, le voilà qui me demande de lui donner le nom du président de la République française. Le nom qui me vient immédiatement à l'esprit est celui de Chirac. Je lui donne ma réponse. Mon père et ma mère sont là, ils me regardent d'un air apitoyé. Pauvre enfant, semble-t-il penser. Quoi ? C'est pas Chirac ? Le médecin, pour m'aider, me dit que le nouveau président est marié avec un ancien mannequin. Il me parle comme un enfant de 5 ans, je pense qu'il se fout de ma gueule. Mais lorsque je me tourne vers mon père, il hausse les épaules en signe d'approbation. Un mannequin ? Elle est aussi chanteuse, ajoute-t-il. Manquait plus que ça. Alors ? Alors, rien. Je pense à Bernadette Chirac. Ça commence par la lettre S. Je continue à penser à Bernadette Chirac. Au bout de quelques secondes, il lâche le nom de Sarkozy. Alors tout me revient d'un coup.
25. Deux survivants.
15 jours sont passés depuis l'AVC de Benjamin. Je suis assis près de lui ce matin. Et je regarde son visage combatif, tandis que la kiné plie et déplie ses jambes imberbes. Un rayon de soleil entre dans la chambre et se pose sur son front, y dessinant une étrange tache lumineuse. Une phrase prend forme dans mon esprit. Nous sommes deux survivants. Je me la répète comme un mantra. Une fois, deux fois. Puis, Benjamin se tourne vers moi et me sourit, comme s'il m'avait entendu penser. Le rayon de soleil s'efface de son front.
26. Lucie.
J'ai quitté les soins intensifs et l'hôpital Bichat pour un service de rééducation post-AVC à l'hôpital Rothschild. Mon quotidien est rythmé par des séances de kiné et d'orthophonie. Je réapprends à bouger et à parler. Je tiens maintenant sur mes jambes et parviens à mettre un pied devant l'autre. Ma mère est revenue à Paris pour le week-end. Lorsqu'elle arrive, en fin de matinée à l'hôpital, je suis en train de déjeuner. Je délaisse mon potage pour lui montrer comment je marche, comment je parle. Elle me félicite. Tandis que je continue mon repas, elle m'annonce qu'elle a enfin eu des nouvelles de ma sœur et qu'elle « prendrait bientôt contact avec moi », selon sa propre expression. Lucie a 22 ans et vit chez mes parents. Enfin, vivait chez mes parents jusqu'à récemment. Pour résumer, ma sœur, après plusieurs échecs amoureux, a voulu faire un travail sur elle-même, comme on dit. Cela l'a menée à rencontrer une pseudo-psychothérapeute dont le fond de commerce est l'épanouissement personnel. Elle voyait cette femme deux fois par semaine et rentrait le soir à la maison avec des devoirs. Au début, elle s'enfermait dans sa chambre pendant des heures pour écouter des CD d'eau qui coulent en faisant brûler des bâtons d'encens. Rien de bien méchant. Mais les choses se sont corsées l'été dernier, quand elle a décidé de quitter le cocon familial pour aller vivre dans le Gers, à une centaine de kilomètres de la maison, dans une communauté fondée par cette psychothérapeute qui s'est révélée être prêtresse de je sais pas quoi et avoir des dizaines de disciples. Bien sûr, la tournure qu'ont pris les événements inquiète beaucoup mes parents. Ma sœur prendrait donc bientôt contact avec moi. Je suis en train de finir mon steak haché haricots verts quand mon nouveau neurologue entre dans ma chambre avec ses nouvelles questions pour le champion que je ne suis pas encore.
27. L'invitation.
Comment se fait-il que depuis tout ce temps, Amélie et moi, nous n'avons pas conclu ? Maintenant que Benjamin est tiré d'affaire, il me faut reprendre les choses en main. Je saisis mon téléphone, une sonnerie, deux sonneries. Amélie décroche. Je me mets à lui parler comme si c'était moi qui venais d'avoir un AVC. Elle comprend rien. Je recommence. Quelle est la raison de mon appel ? J'improvise. Je lui propose de l'inviter à dîner. Quand ? Ce soir ? Où ? Chez moi ? Elle accepte. Il est donc 16h. Et donc, j'ai 4h30 pour 1. Décider d'un menu, 2. Aller faire des courses au Monoprix, 3. Cuisiner, et 4. Ranger mon appartement, mais pas trop.
28. Monoprix.
Caisse numéro 2, s'il vous plaît.
Bon, je me suis décidé pour un potage aux champignons, des lasagnes végétariennes et un gâteau à la carotte. J'arpente maintenant les rayons du Monoprix à la recherche des ingrédients. Il est donc 16h45, nous sommes donc mardi. Je me demande, qui sont tous ces gens disponibles pour faire des courses en plein après-midi et en pleine semaine ? Bon, certes, il y a quelques personnes âgées, un SDF à la recherche de sa canette de bière 12 degrés, la clientèle normale des mardis après-midi. Mais que fait par exemple ici cette jeune femme qui doit avoir la trentaine et une situation sociale privilégiée ? Peut-être que c'est son jour de RTT ? Et lui, là, 50-55 ans, très chic, habillé en costume, genre vieux beau. Et ses deux pris ados à franges, au rayon boisson fraîche, qui hésitent entre un smoothie et un Red Bull. Il sèche les cours, non? Bon, j'ai trouvé tous les ingrédients en un temps record, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Je traîne mon caddie vers les caisses. Il n'y en a que deux d'ouvertes, comme d'habitude. Laquelle choisir? J'hésite. Soit je me place derrière le type avec un caddie rempli à ras-bord de bouteilles d'eau, mais il doit prendre des bains d'eau minérale, ce mec, c'est pas possible. Soit derrière les deux mémés, dont la dernière porte un panier qui contient que de la nourriture pour chat. Je me décide pour le type aux bouteilles d'eau. Je commence à décharger mes achats sur le tapis roulant quand la caissière m'interpelle.
C'est fermé après le monsieur.
Bon, elle parlait du type aux bouteilles, pas de moi, bien sûr. J'aurais dû m'en douter, je crois que ça doit m'arriver une fois sur deux. Bon, je remballe mes carottes, va pour les mémés. Entre-temps, les deux préados à franges se sont carrément incrustés derrière elle. La première mémé est en train de demander à la caissière de fouiller dans son porte-monnaie pour faire la pointe. La seconde mémé finit de déposer de manière très méthodique ses 12 boîtes de pâté pour chat. Les préados se recoiffent la frange en même temps. Ils ont finalement choisi le Red Bull. Le SDF vient se placer derrière moi et compte les pièces jaunes dans la paume de sa main tremblante. Au bout d'un quart d'heure, je remplis enfin les sacs de mes achats.
Vous avez la carte Monoprix ?
29. Le dîner.
L'appartement d'Armand est un deux pièces avec un grand salon et un balcon qui court sur toute la superficie. C'est là, sur le balcon, que nous débutons la soirée en buvant une coupe de champagne. Nous trinquons au rétablissement de Benjamin, au sien et à notre rencontre. Puis, en silence, nous contemplons la ville qui vient de tomber dans la nuit. En se penchant un peu, on peut voir le Sacré-Cœur, me dit-il. Nous nous penchons alors tous les deux vers le Sacré-Cœur. Le battement du mien, mon cœur, s'accélère quand son bras frôle accidentellement ma poitrine. Nous passons à table aux alentours de 22 heures, après avoir fini la bouteille de champagne sans même nous en rendre compte. Je suis déjà un peu gaie. Lui aussi. Le velouté de champignons est délicieux. Il se marie très bien avec la bouteille de Vaqueras que j'ai apportée. Au moment des lasagnes végétariennes excellentes, nous nous mettons à parler de mon travail à la galerie. Armand m'avoue qu'il a longtemps eu l'ambition de devenir peintre. Il y a renoncé il y a 2 ans, au moment de sa rupture avec la fille qui partageait sa vie. Elle l'encourageait. Elle était la seule à croire en son talent, me dit-il. Les autres, les amis, les connaissances, même s'ils ne le disaient pas, trouvaient que c'était has-been de faire encore de la peinture à l'heure des nouvelles technologies. Quand ils se sont quittés avec sa copine, ça lui a soudain semblé ridicule de persévérer. Cette réflexion le plonge, durant une dizaine de secondes, dans une rêverie mélancolique, à laquelle il met fin en proposant brusquement de passer au dessert. Le gâteau à la carotte, c'est vrai, un peu trop cuit, mais la crème anglaise sauve l'affaire. Le Vaqueras fini, Armand débouche une deuxième bouteille. J'ai de plus en plus chaud, je suis de plus en plus ivre, mais je me sens détendue. J'enlève mon pull. Après la deuxième part de gâteau, Armand se lève pour mettre de la musique.
Assieds-toi sur le canapé, c'est plus moelleux.
L'ordinateur portable branché aux enceintes passe un morceau étrange avec des chœurs célestes. Nous écoutons religieusement. À la fin du morceau, il se penche vers moi et sans que je l'aie vu venir, m'embrasse. 30. X.
C'est vrai que tout ça ressemblait à un guet-apens. L'invitation, plus l'alcool, plus le canapé, plus Tiger Mountain Pigeon Song des Fleet Foxes. Et pourtant, rien n'était prévu. Je suis pas le genre de garçon à préméditer ce genre de situation. J'ai souvent rêvé de l'être, mais je le suis pas. Nous sommes déshabillés au milieu du salon. Heureusement, j'avais passé l'aspirateur.
Céline.
Voilà, nous entrons dans le dur de l'automne.
Les filles ont définitivement remisé au placard leur tenue légère. On sort de cette période délicate durant laquelle elles ne savent pas trop comment s'habiller et tentent des propositions expérimentales souvent décevantes. Mais c'est enfin le retour des jupes, des collants et des bottes en cuir, ma saison préférée. J'en suis à ces réflexions vestimentaires quand, au bout de la rue Orfila, alors que je me dirige vers le métro Gambetta, mon vélo est crevé, hein, la flamme de le traîner jusqu'au réparateur, la vision de la silhouette d'une jeune femme derrière une poussette soulève mon cœur, pas de doute. C'est Céline. La fille avec qui je suis arrivé à Paris, avec qui j'ai partagé 5 ans de ma vie. Je ne l'avais pas revue depuis notre rupture. Enfin, si, une fois. Un mois après notre séparation, nous nous étions retrouvés pour dîner dans ce restaurant près de République, à quelques minutes de l'appartement où nous avions vécu ces 5 années. Ça avait été un désastre. Elle voulait que nous restions amis. Elle m'avait quitté et elle voulait rester mon amie. C'était pour moi inimaginable. Comment pouvait-elle me demander ça? Je souffrais encore. J'avais besoin que ça se passe mal, qu'elle souffre aussi au moins un peu. J'avais été cruel. Alors nous avions coupé les ponts, quelques échanges de mails et puis plus rien. C'est ainsi que, petit à petit, elle a disparu de ma vie. Les amis que nous avions en commun ont choisi leur camp, c'est la règle. C'est une règle inévitable. Je n'avais donc pas la moindre nouvelle de Céline depuis 2 ans, et voilà qu'elle marchait devant moi avec, dans cette poussette, un enfant qui n'était pas le nôtre. Je continue à la suivre à distance, jusqu'au métro. Je m'immobilise devant les escaliers, puis je la regarde s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au coin de la rue. J'allais rejoindre Amélie, nous parlions de nous installer ensemble.
32. Lucie pour Benjamin.
Bonsoir Benjamin. Si tu m'entends, c'est que ça marche. Que j'ai réussi à pénétrer ta pensée. Je suis contente. C'est la première fois que j'y arrive. Tu dois être en train de dormir. Et demain matin, tu auras cru avoir rêvé. En vérité, ce n'est pas un rêve, mais de la télépathie. Depuis que je suis arrivée au manoir, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où nous sommes réunis. Tu adorerais. Nous travaillons quotidiennement à exploiter les possibilités infinies de notre esprit. Je n'ai pas trop le temps de t'en parler maintenant. Et puis j'ai peur que la communication coupe. Je voulais te faire un signe. Excuse-moi de ne pas l'avoir fait avant. Ne m'en veux pas. Je pense tous les jours à toi, plusieurs fois par jour, depuis que maman m'a annoncé ton accident. Cet AVC est une alerte, Benjamin. Une alerte mondiale. La société est malade et contamine le cerveau des plus faibles et de ceux qui résistent pour les abîmer. C'est le début d'une hécatombe. Tu es une victime, mon grand frère. Et j'en suis très triste pour toi. Combien j'aimerais que tu me rejoignes au manoir quand tu seras sorti de l'hôpital. Je sais ce que pensent maman et papa de tout ça. Ils s'inquiètent pour moi. Il ne faut pas. Dis-leur, s'il te plaît. Je sais que toi, ils t'écoutent. Je sens que la ligne commence à se brouiller. Tu m'entends encore? Benjamin? Je reprendrai contact avec toi bientôt. Je t'embrasse.
C'était « Les monologues automne-hiver » de Sébastien Bête-Bédé. Première partie. Automne-hiver 2009-2010. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Avec Vincent Macaigne, Armand. Maud Weiler, Amélie. Bastien Bouillon, Benjamin. Pauline Etienne, Lucie. Olivier Chantreau, Guillaume. Jean-Quentin Châtelain, le père d'Armand. Daniel Isopo, le père de Benjamin. Et les voix de Samira Douche, Loïc et Nicolas Ourcastagnou, Pauline Jambet, Ali Souris, Agathe Bonitzer. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles, Lidwin Caron. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Sébastien Bête-Bédé, Jacques Taroni.